Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Benjamin Griveaux, qui est secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie et des Finances.
Bonjour Benjamin Griveaux, merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Tout de suite, évidemment, une question sur la grève des routiers CGT Force Ouvrière qui a débuté cette nuit. Les Français doivent se préparer à une pénurie de carburant?
Écoutez, ça, nous verrons. Une chose est certaine, c'est que ça n'est pas en bloquant l'économie française que nous ferons en sorte que l'économie française aille mieux. Moi, je considère que, bien évidemment, la grève est un droit constitutionnel, qui n'est pas question de remettre en cause, mais que bloquer, empêcher le travail, l'économie tournée, n'est pas un luxe que la France peut se payer aujourd'hui.
C'est ça votre réponse à la première profession qui, de fait, a une réelle capacité de nuisance? C'est peut-être la première
la réponse,
fois d'ailleurs que vous êtes en but à ce type de mouvement.
Ce n'est pas en bloquant l'économie du pays et en empêchant l'économie de tourner qu'on défend le mieux sa cause.
Alors, eux vous disent, ce n'est pas en promulguant la loi travail qu'on défend l'emploi. Et qu'on défend les conditions de travail.
Écoutez,
et qu'on défend la sécurité des salariés.
La loi travail est la loi, la plus grande loi de décentralisation sociale qui a été faite ces 50 dernières années. Elle permet à la fois aux entreprises de se développer et elle protège mieux les salariés. Pour preuve, il n'y a pas eu d'union syndicale et vous aurez noté qu'il y avait simplement une grande centrale syndicale qui a appelé à la manifestation le 12 et le 21. Vous aurez noté la très faible mobilisation de la manifestation du 23 où Jean-Luc Mélenchon nous avait promis un déferlement et des centaines de milliers dans Paris.
Il a pas fait de démonstration.
Il a fait la moitié de la place de la République quand il annonçait des centaines de milliers de personnes à Paris.
Donc, c'est un échec pour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs.
Écoutez, moi, c'est pas à moi de juger savoir si c'est un échec ou pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu une manifestation samedi. Il n'y a eu aucune proposition faite de la part de Jean-Luc Mélenchon. Un discours dont il nous a habitués avec des outrances et où, finalement, il se comporte de manière assez méprisante avec le peuple. Donc, il n'y a pas de difficulté sur la question de savoir si la loi travail est une loi qui libère. C'est une loi qui libère et qui protège à la fois les salariés. C'est toujours dans cet équilibre que Muriel Pénicaud l'a construite avec les partenaires sociaux.
C'est une loi aussi qui inquiète Benjamin Griveaux. Et on a le sentiment ce matin, d'après les premiers retours de terrain qu'on a grâce aux reporters d'RTL, qu'il y a un déploiement de force important. C'est ça le mot d'ordre, c'est il faut bloquer les blocages. La priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est ça, face à la grève des routiers.
La priorité du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'économie puisse tourner, que les gens puissent travailler. C'est cela dont notre pays.
C'est une réponse sociale ?
C'est une réponse économique.
C'est une réponse fermeté d'abord.
C'est une réponse
c'est ça, la
de
priorité.
Fermeté. Respect des personnes qui souhaitent faire grève. Et ça, c'est un droit constitutionnel à nouveau. Mais en même temps, respect aussi des gens qui souhaitent travailler et de permettre à l'outil de travail de fonctionner.
Donc, on entend ce message ce matin, mais si le bras de fer continue, vous avez un plan ? Vous négociez ?
Écoutez. On est à première journée, on a toujours été dans le dialogue, il y a eu des centaines de réunions qui ont été construites avec les partenaires sociaux par Muriel Pénicaud dans le cadre de la discussion sur les ordonnances. Ce gouvernement a toujours été dans le dialogue depuis le début, depuis le premier jour. Et donc nous continuerons à être dans le dialogue, mais nous continuerons aussi à être fermes sur le respect de la loi.
Est-ce qu'il y a du grain à moudre ? Est-ce qu'il y a de quoi négocier ? Est-ce que vous avez une réponse qui est prête au cas où les blocages se poursuivent ?
On ne donne pas la réponse à la question que vous me posez avant même que les discussions n'aient été engagées.
Et les discussions, elles vont être engagées ?
Nous verrons si les discussions s'engagent dans la semaine.
Il n'y a pas de réponse,
il n'y
a pas de rendez-vous.
Nous verrons si les discussions s'engagent cette semaine.
Donc cette semaine, vous allez voir comment finalement évolue le mouvement avant de dégainer d'éventuelles mesures que réclament les routiers, c'est ça ?
Écoutez, à nouveau, il n'est pas question que l'économie française soit bloquée. Je le répète pour la troisième fois.
Et fermeté.
Je pense que vous avez compris et que vos auditeurs aussi.
On revient un petit mot sur le propos de tribune de Jean-Luc Mélenchon que vous évoquiez tout à l'heure. C'est la rue qui a abattu les nazis, entre autres. C'est un extrait. Ça a été vivement taclé par la majorité. Hier, il a écrit sur son blog, Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'avait jamais voulu comparer le nazisme au président. Dont acte.
Mais il a comparé le CPE, Alain Juppé et le nazisme dans la même phrase.
Il les a mis sur le même plan.
Il les a mis sur le même plan. Écoutez, moi, à nouveau, je ne vais pas rentrer en polémique avec Jean-Luc Mélenchon, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il est dans l'outrance. Je pense que c'est assez méprisant vis-à-vis du peuple. Quand on fait de la politique, on s'adresse à l'intelligence des gens. Et ce type de raccourci, franchement, n'invite pas à s'adresser à l'intelligence. Autre chose, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas eu une proposition faite dans ce discours et que finalement, il a réuni péniblement 35 000 personnes place de la République pour défendre un texte, le Code du travail, qui est en grande partie responsable des 3,5 millions de chômeurs que nous connaissons aujourd'hui. Et d'un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans supérieur à 20% depuis 20 ans. Voilà la réponse de Jean-Luc Mélenchon au problème économique et social du pays. Je pense que ça ne fait pas une politique.
Oui, vous ne voulez pas polémiquer ce matin, mais d'autres l'ont fait pour vous hier, ou en tout cas là, pour le gouvernement. Par exemple, Christophe Castaner, qui a dénoncé une faute morale de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce n'est pas, compte tenu des correctifs qu'il a apportés hier, une façon d'instrumentaliser quand même.
Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a commis une faute morale. Il a commis une faute morale entre les deux tours de l'élection présidentielle en n'arrivant pas à prononcer le nom d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. La faute morale, elle est originelle.
Ouais. Vous aviez accusé, je m'en souviens très bien, vous personnellement, Jean-Luc Mélenchon, justement, d'instrumentaliser la polémique sur le mot fainéant. Est-ce que c'est pas un jeu comme ça à deux ? Là, cette fois, c'est vous qui jouez ce même jeu. Vous instrumentalisez quand même un petit peu sa phrase. Est-ce que c'est vraiment...
À nouveau, ce matin, moi, je ne suis pas là pour instrumentaliser la phrase de quiconque. Ce que je note, c'est qu'il n'a pas fait une seule proposition dans la journée de samedi, qu'il passe une heure et demie à la tribune sans faire...
C'est son rôle.
Dans opposition, il y a position. Et donc, on peut aussi estimer que l'opposition, son rôle, c'est de faire des propositions.
Il en a fait pendant la campagne électorale.
Les 17 parlementaires... La France insoumise n'ont pas fait une seule proposition depuis qu'ils siègent à l'Assemblée nationale. Ils ont fait des effets de tribune, ils ont sorti des boîtes de conserve à l'Assemblée nationale. Je crois que les Français sont en droit d'attendre autre chose de la part de députés de la nation. Nous attendons leurs propositions avec impatience dans les budgets qui viennent. Écoutez, oui, c'est de l'opposition stérile.
28 sénateurs élus sous l'étiquette LREM, La République En Marche, hier. C'est une déception.
Écoutez, en tout cas, ce n'est pas une surprise.
Non mais dites-le,
un petit surprise.
Moment sans langue de bois, ça n'est pas une surprise,
Elisabeth Martichoux.
Ce n'est pas une surprise, sauf que vous aviez d'autres ambitions, vous pouvez simplement le reconnaître.
Le collège électoral, pour le Sénat a été constitué par les élections locales de 2014 et de 2015. Il n'y avait pas la République En Marche, ça n'existait pas. Et donc, est-ce que c'est une victoire pour la République En Marche ? Non, à l'évidence. Est-ce que c'est une surprise ? La réponse est non.
Les sondages sont très mauvais, ou en tout cas mauvais, si vous préférez, pour le président. Les manifestations s'enchaînent. Cette élection, quand même, est médiocre pour vous. Qu'est-ce qui ne marche plus ?
Bah écoutez, vous oubliez le sondage de ce week-end dans le JDD, donc vous prenez
les sondages à la baisse.
Vous
avez remonté de 5 points. Emmanuel Macron a repris 5 points.
Mais vous savez, je n'ai pas l'habitude de commenter les sondages quand ils baissent, donc je ne les commenterai pas plus quand ils montent.
Il y a un climat social, il y a une élection qui fonctionne mal.
Nous ne gouvernons pas avec les yeux rivés sur les sondages.
Mais il n'y a pas
moi,
que les sondages.
Ce qui m'intéresse, c'est la transformation profonde de notre modèle, à la fois économique et social, qui est engagée. Économique sur le front du travail avec les ordonnances. Sur le front du capital, ce sera la présentation du projet de loi de finances cette semaine. Et puis, sur le front de notre modèle social, avec les changements à intervenir sur le sujet des retraites et de l'assurance chômage. C'est le seul sujet qui nous intéresse et qui doit motiver notre action.
Alors, je vous demande de faire une réponse à ma question. Sur le Sénat, la dernière, si vous ne trouvez pas de majorité pour la révision constitutionnelle promise en 2018, l'an prochain, est-ce qu'Emmanuel Macron a mis sur la table l'hypothèse d'un référendum ? C'est toujours risqué un référendum, mais est-ce qu'il l'envisage aujourd'hui ? Très bien.
Ça, je ne sais pas s'il l'envisage aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que si on souhaite baisser le nombre de parlementaires, on n'est pas obligé de passer par une révision constitutionnelle.
Limiter le cumul des
mandats dans le temps. On peut passer par la loi. Donc, nous verrons ce qui est de l'ordre du faisable. Et vous savez, le Sénat, ça n'est pas l'Assemblée nationale. Vous pouvez aussi construire des majorités de projets. Les élus locaux en ont d'ailleurs une grande...
négociations à l'ancienne.
Les élus locaux en ont...
On va chercher un élu ici, un élu là, ça c'est le vieux monde ça.
J'ai été élu local. Vous avez un nombre de villes incroyable en France, un nombre de départements où vous avez des majorités de projets parce que les gens sont capables de s'entendre. Où ils ne sont pas justement dans les postures et les jeux d'appareils qui se jouent à Paris. Et donc j'ai la certitude qu'au Sénat, on aura des majorités de projets sur des projets où on arrivera à aller convaincre des personnes, des sénateurs qui ne sont pas estampillés La République En Marche, mais où il y aura des majorités de projets au-delà des seules limites de la République
en Marche. Et on entend que, de toute façon, pour baisser le nombre de parlementaires, vous passerez par la loi organique. Et ça, dites, ça c'est une certitude, on peut le faire, le reste, on verra. Il reste très peu de temps, juste pour aborder une question qui sera confirmée dans le budget mercredi, dans sa présentation, c'est la réforme de l'ISF. Les portefeuilles d'action ne seront plus soumis à ce nouveau calcul de l'impôt, cadeau de 3,5 milliards aux riches.
À nouveau, c'est pas un cadeau de 3,5 milliards aux riches, c'est 3,5 milliards qu'on réinvestit dans l'économie française pour créer de l'emploi et de l'activité.
Et vous êtes sûr qu'ils seront réinvestis ?
Et donc, il faut en finir avec cette opposition entre les riches et les pauvres, entre le capital et le travail. Écoutez, ça fait 30 ans que, quand on est à droite, on favorise le capital et à gauche, le travail. Et on a réussi l'exploit d'avoir ni l'un ni l'autre au bout de 30 ans. On n'a pas assez de capitaux pour financer nos entreprises. Et on a 3,5 millions de chômeurs, donc on n'a ni le capital ni le travail. L'objectif, c'est de réconcilier. On fait confiance.
Donc il y a une partie de risque.
On veut réinjecter 3,5 milliards, non pas pour les riches, mais pour les entreprises, pour nos PME, pour nos TPE. C'est ça l'objectif de cette loi.
On verra si le pari est gagné dans quelques mois, dans quelques années. Merci Benjamin Griveaux, vous reviendrez avant quand même.
Avec grand plaisir.
Dans ce studio d'RTL, bonne journée.
Une dernière question Benjamin Griveaux. La victoire ternie d'Angela Merkel avec l'arrivée de l'extrême droite en Allemagne menace-t-elle le couple franco-allemand et la construction européenne ?
Non, mais elle démontre que, à l'évidence, les populismes gagnent du terrain en Europe et que face au populisme, il faut opposer un progressisme de combat et que l'horizon reste plus que jamais européen, à la fois pour la France et pour l'Allemagne.
L'ambassadeur d'Allemagne à Paris sera notre invité à 8h20, je vous le rappelle. Le message routier de Benjamin Griveaux, ce n'est pas en bloquant l'économie du pays que l'on défend le mieux sa cause. La loi travail est la plus importante loi de décentralisation sociale des 50 dernières années. Merci infiniment à tous les deux. L'entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr.